Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut...
C'est un génie!
Et c'est...
Oui. Pas vrai, c'est pas vrai! Deux fois, ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième but
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute!
Oh là là, oh là là, la chute de Mélanqui, chute de Mélanqui, juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain!
Ça y est, Chapot, t'es parti! L'Express! L'Express, le TGV est parti, Chapot! Record du monde!
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh ben oui, nous sommes bien là aujourd'hui en ce vendredi 25 novembre, un mois de Noël. Bonjour Gonzalo.
Ça va, ça va.
Bonjour le Couvésien.
Bonjour.
C'est le début de l'équipe du Café des Sports pour aujourd'hui. On espère un peu d'arrivée du recrutement. On va faire le mercato pour renforcer le tour de table. Aujourd'hui au programme, une entame habituelle de Gonzalo. Puis on parlera. On a deux sujets à aborder aujourd'hui, notamment
dopage.
Le dopage. Et puis, espoir, désespoir, on parlera un peu de ces joueurs, de ces joueuses qui ont parfois eu des palmarès et puis qui sont au final...
En jeune, oui, qui ont eu des palmarès en jeune et qui n'ont pas percé à haut niveau.
Voilà, donc on fera un peu un point sur le local, mais aussi sur la nationale. En fait, le débat a été lancé suite au...
Une altercation.
Un problème entre les jeunes joueurs de rugby qui ne jouent pas assez en France. Donc on fera le point avec la génération...
On parlait de rugby.
Voilà, de rugby, on parlera de la génération championne du monde en 2006 dans la catégorie des moins de 21 ans. On retrouvera leur parcours. Puis je crois qu'on parlera bien évidemment au local du centre de formation de basket.
Et peut-être prochainement de volley.
À suivre avec l'histoire du CFME, toujours... le labyrinthe CFME qui va peut-être enfin voir le jour. Et tout ça évidemment orchestré de main
d'arpette.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Normalement si quand même, pour les plus fidèles auditeurs, Raoul devrait arriver. Raoul devrait arriver un moment pour recorser ce café qui sera pour l'instant plutôt...
Tu crois que c'est à cause du jingle qu'il n'est pas là?
Je sais pas. Ah, s'il faut, je lui en mettrai un autre. Je crois qu'on a fait le tour pour cette émission, pour la présentation. Juste vous rappeler qu'en direct, vous pouvez chatter avec nous sur principeactif.net. Et puis voilà, c'est le début de cette émission. Donc musique, tout de suite, Gonzalo. On commence avec quoi?
Billy Hawks.
Allez, go.
took my love. Now you're gone. Baby, please come back home.
Et donc, c'était quoi ?
Billy Hawks, I think I'm losing you.
Bon, non, je vais rester, t'inquiète pas. Hein. On disait, pour les auditeurs réguliers de Principe Actif, ça ressemble un peu au morceau d'Antam.
Alors, c'est un titre sélectionné par El Señor Huetu.
Voilà. Donc, l'émission du lundi soir, 18h-19h, TTC. 18h10, oui, il y a les infos maintenant. Et je sais pas. Tiens, on va demander au Couvésien. T'as été voir du sport un peu cette année sur dans les gymnases, dans les salles. Les auditeurs, ils ont l'habitude que moi j'en parle, Damienski. Mais toi, t'as été voir quoi depuis le début de l'année comme sport ?
Forcément dans une salle ou ça peut être en
plein air ? Ah non, ça peut être dehors aussi. Hein.
Bon, moi j'ai vu un très beau match de rugby. Voilà.
T'avais quelle rencontre ?
Vincennes.
Non, pas Vincennes.
Clamart ?
Un tour. Non. T'es venu pour tour.
Tour, voilà.
L'UST.
Tour, ouais, c'était
très,
c'était
très
pas
beau
mal.
Match. Impressionnant. Un ballon qui vit, des gens qui prennent le ballon dans le mouvement, etc. C'était vraiment très.
Qui tape loin, ouais.
Voilà. Voilà. Non, c'était vraiment très, très bien.
Et puis, t'as pas vu une balle aussi dans un gymnase avec un filet tendu pour reprendre le célèbre Jamal ?
Du volet ?
T'as pas été voir du volet encore ?
Ah, si, un petit peu, ouais. Ah, oui, oui, c'est vrai. Ah, non, mais. Excusez-moi, je l'avais rayé de ma mémoire. Voilà.
Calais. Le match contre Calais.
Ouais, Calais, voilà, exactement.
Et du coup, le cru 2000, ton avis sur le cru 2011-2012 de l'EVB ?
Le cru, hein. Le cru. Hein. tu laisses le R.
Il faut forcément que je me fâche avec l'entraîneur tout de suite ou...
Il n'écoute pas, il est.
Ah, d'accord, il est occupé, d'accord.
Il est occupé.
Ah, okay. Non, non, mais ma connaissance et mon recul ne me permettent pas de. Je l'ai fait très diplomatique, ça va comme ça.
C'est pas mal, ouais. Ouais,
non, cru et recul, ouais, c'est bon, t'es dans le ton, hein.
Ouais.
Alors vas-y, quand même.
Il est que dans le ton, tu crois ?
Non, mais c'est incroyable, je n'ai quasiment aucun souvenir.
La vie a été meilleure.
Ça m'a pas imprégné, quoi, voilà. Autant ce match de rugby que j'ai trouvé exceptionnel, quoi. C'est par le jeu qu'il y avait en face.
Ouais.
Et puis, côté local aussi. Pardon, non, non, mais c'était vraiment un très, très beau match.
C'est vrai que ça ne gagne pas beaucoup en ces derniers temps, mais on voit du beau rugby ouais. Comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Enfin, quand je parle beau rugby, parfois l'EAC a déjà bien joué, mais en face, soit c'était pas bon, ou alors c'était les valeurs étaient inversées. Quoi. Mais là, il y a du beau jeu.
Voilà,
et on ne s'ennuie pas. Quoi.
C'est du rugby un peu plus total, on va dire. On tend vers du rugby total.
On tend vers la Fédérale 2 quand même.
Voilà.
Le comment on appelle ça, le fait de réduire la Fédérale 3, la densification, la
ouais,
densité,
le resserrement du niveau, on va
le
dire,
resserrement
tout simple
du cru.
Et ben voilà.
je voudrais rajouter quand même pour ceux qui sont pas fans de rugby mais qui préfèrent d'autres, enfin des aspects gore, on a quand même assisté à une scène très difficile. Hein.
Ah ouais.
Fracture quoi, péroné.
Tibia péroné, ouais.
Tibia péroné, ouais. Quasiment sous nos yeux. Hein.
Ouais.
On
n'a
pas entendu le bruit, mais ouais. Presque. Donc voilà.
Mais et c'est pas dangereux. Hein.
Une épaule aussi.
Une épaule, ouais, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Qui a repris l'entraînement. Et toi, Gonzalo, ça te donne quoi pour toi le sport cette semaine ?
On n'est pas bien ? Si. paisible, à la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà qui dit. Très cher patron, on en est à la troisième mensuelle et c'est la troisième fois que je te dis que mon papier n'est pas basé sur l'actualité sportive.
Je sais.
Non, voilà, je voulais juste le dire. C'est la crise, ma pauvre Lucette. Même pour la tournée du patron, la mensuelle du Café des Sports. Ah, oh, nous étions fiers, fiers en septembre. Tenez, un peu comme les rugbymen et assistes, on en parlait il y a quelques secondes. Avec les beaux jours, le comptoir affiché complet. Il y avait du Raoul, il y avait du Damienski. Il y avait du Human, il y avait du Couvésien, il y avait du Patron, et moi-même, l'arpette gonzalienne. Ouais. Le mois dernier encore, c'est encore plus fort. Oh, écoutez ça, je vais vous le raconter, si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas entendu le podcast qu'on a mis il y a deux jours, écoutez ça. On avait même un invité. Ouais. Oh, c'était incroyable. Le fringant Lovrega, ailier qu'on aimait, arbitre...
Arbitre.
Arbitre. Et on était en public. Ouais. On était à l'abordage club, il y avait de la foule, il y avait du public, c'était merveilleux. C'était pas Liverpool, mais il y avait foule. Non, c'était bien.
Ouais, c'était cool.
Ouais. Et puis là, vous avez tous mis le nez dehors, les premiers frimas sont arrivés et le comptoir se vide. Damienski du côté de Rio, Yo-Yo-Man plus modestement à Gravigny, avec notre bon Bernardo qu'on salue pour ces bonnes nouvelles de novembre. Non.
Ah bah, c'est mieux que les deux premières... Deux premiers cafés.
Et Raoul, au taf, le pauvre, le voilà qui fait des heures sup pour combattre les effets d'une reprise molle du genou. Moi, je vous l'ai dit. On se croirait à l'entraînement nocturne et frisqué de l'EAC. Tiens, on pourrait peut-être parler de celui de mercredi dernier. 27 gaillards sur le prêt, m'a-t-on dit.
Bonne source.
Pas de quoi...
C'est pas moi.
Exactement. Si on me donne de l'argent, je dis non, mais sinon, ça restera totalement secret. Et donc, 27, si mes comptes sont bons. 15... plus 15 ou 15 fois 2, ça fait 30. Hein.
On est d'accord.
Et donc à 27, Jérôme, toi qui t'y connais un peu en sport, 27 par rapport à 30, on ne peut pas faire une équipe contre l'autre.
Non.
Ouais, ouais.
Puis en et plus, voilà. C'est impair.
Exactement.
Donc il y a l'arbitre.
Moi. Et manque. Et ouais. Passe. Impair,
cela,
et
dit,
passe.
Cela dit, je me moque parce que nous, c'est pas fameux non plus. Hein. On est trois. Le patron, fier. Moi derrière.
Moi.
Moi derrière la machine. Et le Couvésien qui nous honore de sa présence. Et nous lui serons débitables. Nous serons ses débiteurs.
Nous serons débiteurs.
Comme on dit, un couple à trois, généralement.
Quoi qu'il en soit, le patron a ordonné. Vous avez remarqué, je parle lentement aujourd'hui. Ça fait durer. Quoi qu'il en soit, le patron a ordonné. Aujourd'hui, dopage et formation. Avons-nous été formés, nous autres ? Déformé en fin d'adolescence, c'est certain. Et c'est sans doute lié au premier sujet retenu par Brandon pour cette émission du 25 novembre, le dopage. Mais ici, je pense qu'à ce comptoir, on s'est surtout anti-dopé. C'est-à-dire que la consommation de certains produits la veille au soir de la compétition avait pour conséquence, le AV on peut le laisser au présent et même au futur, conséquence d'amoindrir les performances des petits sportifs que nous étions. Ah, c'est vrai, petits sportifs que nous étions. Mais au moins, nous avons créé du lien social. C'est un mot qui est pas mal.
Oh là
ça,
là, hein. C'est pas mal là. Et voir du lien intergénérationnel par moment.
Et quelque part, nous sommes devenus des amis de haut niveau. Et c'est déjà pas si mal. Et en tout cas, moi je trouve que c'est mieux que rien.
Et c'est vrai qu'on a joué avec nos pères.
Avec nos pères. Ah oui, il y a ce truc là, oui.
Pardon. On est d'accord.
je dis lentement.
Non, il réfléchissait à comment écrire père.
Voilà, c'est ça. Mais c'était le double sens.
Voilà, chef.
Et ben, ça me va bien. J'aime bien le ton de cette courte chronique qui a pris autant de temps que quand elle fait 4 pages.
Mais jamais 4 pages, une et demie, et... grand max.
Non, nous exagérons toujours.
Amis de haut niveau, et c'est ce qu'il faut retenir.
Ouais.
Et donc, on n'aura pas une évolution des produits utilisés ?
Et parfois.
Ah bon, nous on a les gars variés, hein, cela dit.
Amis de haut niveau, parfois dans le caniveau, par contre. Aussi, très tard dans la soirée.
Ça fait bien longtemps que j'ai.
Oh, bref, ah, mais
nous, qu'on a vu personne, non.
Mais nous, on a.
On
ne
jamais... le voit jamais, on le sait que par après.
On le sait qu'après. Vas-y, Moundir, on fait nous ta phrase, on le sait qu'après.
On le sait qu'après.
Bon, vous voulez quand même un peu de musique ?
Ah ben, je crois qu'on est là pour ça. Hein.
Alors là, c'est une sélection de Fred Astaire. Le titre m'allait bien. Pour nous, hein. C'est pas à la maison, ma douce. Ça n'a rien à voir. Couple Must Fight, Jonathan Richman.
today, tomorrow. Couples must argue, couples must fight.
Alors c'était, rappelle-nous,
Jonathan Richman, Couple Must Fight. Jonathan Richman que l'on devrait pouvoir voir en concert, en mars, pas chez nous.
Ah, dans la capitale.
Dans un numéro...
à trois chiffres.
105 plus 1.
Ok. Eh ben, on en, bonjour Yo-Yo Man, qui dit qu'il est, même s'il n'est pas présent parmi nous, de visu.
Ah, il est toujours dans nos cœurs.
Voilà. Allez, bon, on enchaîne avec ça.
C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici.
Eh ben...
Taxi Driver.
Tout à fait. C'est à vous qu'on va parler d'un truc grave quand même. C'est le dopage. Alors on va renouer avec la bonne vieille comment dire, tradition du quiz aujourd'hui pour parler donc du dopage. Avec quelques citations, comment dire, pour vous, Gonzalo et Monsieur le Couvésien. Vous allez essayer de retrouver
des... C'est Couvésien, le Couvésien. C'est pas Monsieur le Couvésien, c'est le
ouais,
Couvésien.
Ouais, mais je trouve que c'est mieux avec le. Ça fait un peu baron, comme ça. Monsieur le Couvésien.
Baron. Ah, je vais recommencer sur les quartiers.
Voilà. Je l'ai menti, vas-y.
Allez. Première citation, je pense que c'est facile pour illustrer le dopage. Donc, le thème de ce soir, le premier thème, le Tour de France, il serait moins dur à faire sans vélo que sans le dopage. Et encore, il faudrait qu'il fasse beau.
Coluche,
bonne réponse.
Gonzalo, 1, Couvésien 0.
Voilà, dès qu'on
va... Non, mais je veux l'extérieur, moi.
ton but contre à double.
Alors, citation suivante. Scandale, pot de vin, accident, meurtre, hooliganisme, magouille, dénonciation... Dopage, coup bas, tricherie, caisse noire, inculpation, violence. L'important, c'est de participer.
Berlusconi.
Eva Jolie.
Vous n'êtes pas dans le bon pays.
D'accord.
Guéno.
Entre Berlusconi et Eva Jolie.
D'accord. Mais c'est quelqu'un qui a trempé dans la politique pour tenir des propos.
C'est un dessinateur.
Ah ouais.
Un belge là ?
Un belge.
Ah, celui qui fait le chat ?
Tout à fait.
Ah, tu me tends la perche.
Gueluc.
Philippe Gueluc, tout à fait. Allez, une spéciale rugby quand même. J'en ai trouvé une petite. Il y aura aussi du dopage dans le rugby. Avant les perfusions, le ballon était rond. Si avant aujourd'hui on m'avait dit qu'il avait fait des citations sur le sport, lui, j'aurais jamais cru.
La porte ?
Non.
La fenêtre. Non, je sais
non.
Pas.
Laurent Ruquier.
Ah,
désolé.
On parle pas au Havre, nous.
Et puis la dernière pour clore cette rentrée.
Tu peux trop faire, il y a balle de match. On a dit qu'il y a un compté double.
Il y aura la revanche en plus sur Espoir tout à l'heure. Le dopage dans le football, c'est en Italie, pas en France. C'est comme le nuage de Tchernobyl.
Zim dim zim dam.
Il s'arrête à notre frontière.
Zim dim zim dam.
Non. Je redis. Le dopage dans le football, c'est en Italie, pas en France. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Il s'arrête à la frontière.
Donc c'est un politicien. C'est un français.
C'est un français.
Alors attends, on va faire comme dans les grosses têtes. On fait comme dans les grosses têtes. On a le droit de poser des questions.
Ah d'accord.
C'est un entraîneur.
Non.
C'est un commentateur sportif ?
Non plus.
Un joueur, non ?
Non plus.
Une femme de joueur ?
Non.
Non.
Zaya.
Elle parle pas trop, elle.
Donc, un politicien, non ? T'as dit non ?
Non, non.
Quelqu'un qui est lié au milieu du sport ?
Pas du tout.
La chanson ?
Non plus.
Cinéma ?
Non plus.
Pas les arts, non ?
Non.
On s'en fout alors.
Ouais, c'est le même que tout à l'heure, c'est Laurent Ruquier. Voilà. Oh, bah ouais, je la trouvais quand même. Je la trouvais intéressante et on va rentrer dans le dopage pour de vrai.
Et donc c'est quelqu'un qui a une influence sur le sport, Laurent Ruquier.
Bah non, mais bon, voilà.
Il a fucking Blue Boy.
Ouais, voilà. Mais non, mais je trouvais important par rapport peut-être à la langue de bois qui traîne autour du dopage, de dire qu'en France, il n'y a pas de dopage et que ça s'arrête. Je trouvais que le lien, il y avait un certain lien avec l'actualité et notamment ce qu'on va vous faire écouter en suivant. Gonzalo, tu vas nous resituer ça précisément.
Matinale de France Inter, 8h-10. Je crois que Madame Clark est malade et c'est M. Vell qui reçoit un professeur français.
Voilà, médecin. Ça dure quelques minutes. Écoutez attentivement vos interrogations après sur ce qui a été dit. Et puis nous, on va rebondir là-dessus très largement.
Bonjour.
Bonjour.
Yannick Noah a donc écrit dans Le Monde en substance, les Espagnols qui collectionnent les titres du foot, du vélo, du basket, du tennis prennent tous de la potion magique. Bref, ils se dopent. Est-il jaloux des Espagnols ou il brise la loi du silence?
Peut-être les deux. Jaloux parce que son fils s'est fait battre par les Espagnols en finale du championnat d'Europe, mais il dit une vérité que personne ne veut entendre, notamment le monde du sport. C'est qu'aujourd'hui, le contrôle antidopage est incapable de dire qui triche ou qui ne triche pas. Donc, dans les deux sens, que Noah balance, il ne peut pas le démontrer, et que les Espagnols nient, ils ne peuvent pas le démontrer. C'est ça le problème. Il faut rappeler l'histoire du dopage est exemplaire. Il faut rappeler que chaque fois qu'une nation domine le monde du sport, eh bien le dopage est derrière, en tout cas la plupart du temps. Vous avez eu la RDA pendant 20 ans, vous avez eu la Chine au début des années 90, en natation, en athlétisme. Vous avez eu l'Italie tout au long de la décennie 90-2000 qui a gagné toutes les classiques, qui a remporté toutes les épreuves. La Jamaïque récemment. Qui aussi a été épinglé par la patrouille à plusieurs reprises. Donc, effectivement, ça peut paraître contradictoire entre le fait que je dise que les contrôles n'attrapent pas les tricheurs et que là, quand même, mais souvent, c'est la police.
Donc, les contrôles antidopage en Espagne, c'est bidon.
Mais ils ne sont pas qu'en Espagne, c'est partout. Vous avez,
et
vous,
en France, bidon aussi ?
Mais bien sûr, vous avez des substances indécelables. Vous ne pouvez pas lutter contre le dopage tant qu'il y a des substances indécelables. Au final, les laboratoires cherchent des substances que les sportifs ne prennent pas et les sportifs prennent des substances que les laboratoires ne trouvent pas. Donc les résultats du contrôle ne peuvent pas quantifier qui triche ou qui ne triche pas.
Donc en France, dans le cyclisme, la Ligue 1 de football, la lutte antidopage, c'est de la rigolade. Tous dopés.
Ah non, on peut pas répondre de cette façon, mais tout le monde peut se doper sans se faire prendre. Voilà ce qu'on peut dire. En revanche, de dire que tout le monde se dope, non. Mais tout le monde peut se doper sans se faire prendre. Il y a des substances indécelables. Attendez, les sportifs de haut niveau sont attirés, comme les mouches par la confiture, pour aller sur les podiums.
Donc ceux qui vont voir les matchs de la Ligue 1, qui payent pour voir un spectacle sportif, ont de bonnes chances de voir des footballeurs dopés.
C'est probable, mais comme le contrôle ne peut pas apporter la preuve, effectivement, on peut dire que j'exagère, que je raconte des histoires. Oui. Mais l'histoire est là. Attendez, dans les années 60, le football italien, il y avait quasiment 60 à 70% des footballeurs de première division qui étaient armés avec des produits. On fait une descente dans le Tour d'Italie en 2001, oui, il y a deux contrôles positifs pendant toute la durée de la course et les flics arrivent dans les chambres, 53 valises positives. Donc c'est évident que ce n'est pas le contrôle antidopage qui est la bonne manœuvre et d'autant plus que l'on fait la plupart du temps des contrôles le soir de la compétition et le jeu c'est de passer à travers ces contrôles.
Mais c'est quoi la bonne manœuvre alors ?
Mais la bonne manœuvre, la première manœuvre qui existe depuis une cinquantaine d'années et qui est irrémédiablement vouée à l'échec, c'est que ce sont les instances sportives, les fédérations, qui sanctionnent. C'est pas possible, ça. Est-ce que vous connaissez un jury d'assises ou c'est la famille qui juge le prévenu ? Est-ce que vous connaissez un PDG délégué syndical ? Eh bien, dans le sport, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas demander à une fédération de se scier la branche sur laquelle elle est. Donc, effectivement, on minimise chaque
Donc
fois qu'il y a une affaire de dopage.
Donc, il faut une autorité vraiment indépendante.
Bien sûr, chaque fois qu'il y a une affaire de dopage, mais non, c'est un cas isolé, etc. Pendant 20 ans, 30 ans, avant l'affaire Festina, tous les contrôles étaient négatifs.
Mais l'Agence mondiale antidopage, elle sert à quoi ?
L'Agence mondiale antidopage est une émanation du sport. Hein, c'est à moitié gouvernement, moitié...
Donc elle n'est pas indépendante.
Pour moi, elle n'est pas indépendante.
Donc la position...
Et la meilleure preuve, attendez, oui. Ça, c'est tout ce s'entrechoque là. Vous avez eu récemment le directeur exécutif de l'AMA, David Oman, un ancien tennisman classé, mm-hmm. néo-zélandais, qui fait une communication devant l'UNESCO et raconte qu'on n'attrape que les bénés, qu'on a fait ouais. 250 000 contrôles et qu'on a attrapé que 36 cas à l'EPO, c'est ridicule, on est quasiment nul, ouais. Il faut revoir les choses. Vous voyez, bon. Donc, c'est pas moi qui le dis.
Une question
c'est
prise, oui.
le patron de l'AMA.
Selon vous, Cadel Evans, l'Australien vainqueur du Tour de France 2011, il était dopé ?
Je ne peux pas répondre comme ça parce qu'on va tous recevoir un papier bleu et se retrouver devant un tribunal à la 17e chambre. Mais ce que l'on peut dire, c'est quand la suspicion, jusqu'à présent, dans toute notre société, c'est la présomption d'innocence.
Ouais.
Mais vu la sommation des affaires de dopage, mais partout, dans tous les sports, les fléchettes, le cricket, etc., la pétanque, vu la sommation des affaires de dopage, on ne peut plus parler de présomption d'innocence, mais de suspicion légitime. Donc Noah a raison devant l'ensemble des Espagnols.
Mais il a tort de dire qu'il faut accepter le dopage.
Oui, voilà. Alors là, on aurait pu débattre, parce que, on va parler parce que c'est intéressant de dire pourquoi ce n'est pas effectivement acceptable de libéraliser ou légaliser le dopage.
Jean-Pierre de Mondenard, merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup.
Jean-Pierre.
Jean-Pierre, on était ravis de t'accueillir au Café des Sports.
Je voudrais étayer, je peux, avant de lancer notre débat à trois.
Et ça va être nettement moins engagé que la dernière fois sur l'arbitrage.
Ouais, ouais. Voilà, j'ai quelques docs que j'ai rassemblés. Il y a lemonde.fr qui a fait un dossier assez complet sur le dopage. Deux témoignages. Le premier, c'est Christophe Brissonneau, sociologue du sport, qui expliquait deux choses que je trouvais intéressantes. Voilà, la première. On peut remarquer... qu'en Espagne, comme dans d'autres pays, lorsqu'on met à jour un réseau de dopage dans le sport de haut niveau, on a du mal à aller juridiquement et politiquement jusqu'au bout. L'opium et puis l'argent, hein, on est d'accord ? L'opium du peuple, hein, je voulais dire. Le procès Fuentes est à ce titre évocateur, puisqu'en dehors du cyclisme, les noms des champions d'autres sports n'ont jamais été dévoilés. Cela se dégonfle toujours au dernier moment. Autre chose, toujours de ce monsieur. Travail rime toujours avec utilisation de médicaments. Mes travaux avec d'anciens dopés montrent que le dopage va de pair avec le travail, puisqu'il permet d'encore plus travailler, de supporter une charge de travail de plus en plus importante. J'utiliserai plutôt le terme de pharmacopée. Assez intéressant. Un autre, c'est monsieur Jean-Noël Missa, qui est médecin et philosophe à l'ancienne. Il dit deux choses assez intéressantes. Dans les faits, année après année, les athlètes sont contraints de prendre des produits. On a... Ah ouais, un petit tapis, j'allais te le demander.
Mais oui.
Alors, je reprends. Dans les faits, année après année, les athlètes sont contraints de prendre des produits s'ils veulent rester compétitifs. Tout le monde est conscient de l'ampleur du phénomène dopage. Pourtant, dans le discours, là, on pourrait parler du discours de notre bon ministre des Sports. C'est un Rouennais, ce qui ne m'étonne pas. Bon, c'est méchant, ça. On fait semblant de considérer qu'il ne concerne qu'une poignée de mauvais joueurs obstinés à contourner le règlement pour remporter des victoires faciles. Enfin, et là, je trouve qu'on est exactement dans le fond du problème. Dans les fondements du Code mondial antidopage, il est affirmé que le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. C'est faux. Il s'agit là d'une contre-vérité. Le dopage fait partie intégrante du sport de compétition.
Alors,
de sa réalité, de son histoire, de sa logique et donc de son essence.
Alors ça nous permet de rebondir un peu sur l'histoire du dopage et son arrivée. Il faut quand même remonter pas si loin que ça dans l'histoire du sport moderne pour voir les premiers nageurs hollandais à Amsterdam. Alors est-ce qu'il y a un hasard avec Amsterdam et la doperie ? Je ne sais pas. Donc ça c'est en 1865, à peu près à la même époque. Il y avait le vin Mariani qui était utilisé et même conseillé. C'était un vin aromatisé à la coca. Donc ça, ça remonte quand même juste il y a deux siècles à passer. Et puis bah, après, tout au cours des années, on a amélioré la technique. Alors c'est réducteur, mais c'est vrai que c'est peut-être le sport où on l'a plus facilement vu. parce qu'ils sont 4 heures sur un 4, 5, 6, 7 heures sur la machine. C'est les cyclistes qui ont malheureusement trinqué le plus par rapport à cette image-là, parce qu'ils ont un sport de durée et on les voit faire les choses plus facilement sur leur bicyclette.
Couvésien, qu'est-ce que tu penses, toi, de dopage? Tu penses que c'est inhérent au sport? Tu penses que, comme plutôt que de mal contrôler, comme dit Noah, de pas contrôler du tout, chacun prend ce qu'il veut, en étant un homme libre et réfléchi, c'est-à-dire que si tu dopes et que tu crèves après, c'est ton problème?
Non, moi, je voudrais aborder le sujet d'une autre façon. Moi, je voudrais revenir à mon match de rugby du dimanche après-midi. Je pense que, dès lors qu'on s'intéresse un peu à autre chose qu'à du sport professionnel, spectacle, etc., on peut y prendre beaucoup de plaisir sans voir des choses extraordinaires qui relèvent de l'inhumain. Et voilà, quoi. Et je pense que des gens qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe localement dans le sport, pour supporter un peu des clubs ou des compétiteurs locaux, on mettra peut-être fin à tout cet engrenage d'argent, de recherche d'exploits et de résultats. Et voilà. Et on peut y prendre vraiment du plaisir à voir des choses locales. Voilà. Alors, est-ce que c'est un moyen...
Tu es pour une sorte de DAMAP du sport
quasiment. Voilà.
Du sport bio-local.
Oui, yes. Mais sur les, c'est quoi? Non, les circuits courts.
Non, non, mais attends. Les cycles courts.
Les cycles...
Non, circuits courts, t'as vu.
Non, circuits courts.
Mais... Ouais. Je voudrais avancer un élément qui infirmera ta thèse et qui est assez juste sur un sport comme le rugby en Normandie ou le basket, etc., même le volley. Mais tu as déjà des coureurs cyclistes en régional qui se billent.
Mmh. Ah bah pour gagner un jambon, hein, c'est bien connu. Hein. Le vrai problème du cyclisme...
Bon, il ne veut pas me répondre. Et toi, par rapport à ce que dit Yannick Noah, plutôt que de mal contrôler, laissons les athlètes qui sont intelligents... Enfin,
alors, le
prendre le risque.
Pour moi, il y a deux vitesses dans le dopage, et c'est si c'est dire oui au dopage pour le contrôler de manière, on va dire étatique, ça me gêne pas parce que les athlètes, ils auront le suivi qui va aller avec et ils seront au courant des risques qu'ils encourent.
Comme la RDA.
Voilà. Le vrai, ils étaient peut-être pas complètement au courant, mais au moins ils savaient qu'on les dopait. Au moins,
quand
il le savait.
Madame, ils deviennent monsieur.
Mais par contre, quand t'as une paire de seins qui pousse, ça devient bizarre. Quoi.
Ou inversement.
Ou une paire de coronets qui arrive. Donc ça, c'est la première des choses. Parce que justement, pour en revenir au petit mec qui fait du vélo en départemental 4, et là, lui, il va prendre la recette à mamie, il va aller sur Internet, il va se dire... Allez, faut que je me dope parce que ça, je vais pas assez vite. Il faut que j'améliore le débit sanguin. Donc, je vais prendre un truc pour réguler ma thermorégulation, machin. Des globules rouges. Il va commander une poche de sang sur Internet aux États-Unis. Ça va être du sang de bœuf ou de cheval. T'en sais rien.
T'es vraiment dans le vrai.
C'est là où ça devient dramatique. C'est que des mecs qui font du sport, entre guillemets, à bas niveau ou à un niveau modeste, ils vont mettre en danger leur vie pour gagner 3 francs 6 sous. Et là, ça devient plus dramatique quand c'est des mecs pour la télé et tout. Et ils veulent gagner des millions. Ils jouent avec leur vie, ça me gêne pas. Et puis avec leur image. On rigolera quand, dans 20 ans, alors c'est pas très rigolo, mais quand on verra des rugbyman chargés en fauteuil roulant dans tous les sens parce qu'ils ont joué 50 matchs toute l'année et qu'ils auront des
vertèbres
et des cervicales en vrac.
Il y a deux
Sudaf qui ont été...
Dont un que même le Couvésien connaît, Jos van der Westruisen.
Mmh. Voilà, ça fera pas des beaux vieux, donc après...
En gros, il a une maladie neurologique. Il commence déjà à marcher avec des cannes. Il est dans la fin. Enfin,
il a 45 ans, quoi. Ouais, super, j'ai été champion du monde.
Il a 41 ans.
Ouais, tu vois, bon, j'étais. Et à vue de pif, j'étais pas mal, quoi.
Et à terme, il y a son flanqueur de l'époque, champion du monde.
Pilar.
Non, Agi Venter.
Ah oui, Venter.
Et il est en fauteuil roulant.
Et
justement, je rebondis juste sur un truc. Je te laisse la parole après. C'est toujours Jean-Noël Missa qui expliquait. Il y a effectivement eu des accidents mortels à cause du dopage, mais dans la majorité des cas, ces accidents sont survenus dans un contexte, écoutez bien, où les produits dopants avaient été prescrits dans la clandestinité, le plus souvent par des soigneurs sans formation médicale. Et je termine, seuls les athlètes les plus aisés financièrement peuvent se payer le luxe de prendre les conseils d'un médecin privé pour leur préparation biomédicale. Biomédicale, ça veut dire se doper, hein,
clair. Alors, pour la préparation biomédicale, ou Jérôme, vas-y, peut-être.
Ouais, moi,
tu voulais
moi,
vas-y, non, mais c'était complète juste, ça, moi, après, je vais
parler.
Moi,
c'était juste une pensée. Enfin, j'ai une pensée pour Keith Richards. Voilà.
Non, mais...
qui a quand même plus de 60 ans, qui s'est mis quand même pas mal de choses...
partout.
partout, et qui s'est fait changer le sang...
Ouais, mais c'est.
Non, comme quoi, faut être suivi par un bon médecin.
Ouais,
voilà,
mais je crois que.
Bah, il a la caillasse pour faire changer son sang tous les 3 ans en Suisse. Et puis, on avait fait une émission avec Yoman où Yoman nous a lu à plusieurs reprises des textes de sa biographie. Il avouait qu'il avait un moteur qui était. Moteur carrosserie.
Qui n'était pas le sien.
Machin, et par contre, il disait, à contrario, ma vie est jalonnée de mort, quoi. Des potes morts.
C'est le rock'n'roll, on dira. Et donc, ouais, juste moi, je voulais quand même rajouter 2-3 petites choses sur le dopage. Pour les auditeurs un peu plus novices par rapport au dopage, on peut se doper pour plein de raisons. C'est l'Institut Régional d'Éducation à la Santé qui disent, de toute façon, le dopage est devenu un mot tellement banal dans la vie de tous les jours, maintenant que ça ne fait plus peur. À savoir... Quand il y a des pubs pour prendre des petites vitamines, du lait, machin, on dit doper votre journée, des choses comme ça. Donc il y a quand même un rapport à la performance qui est soumis tous les jours, même pour les enfants. Alors, j'ai pas le droit de dire une marque, mais je vais la dire, Actimel, c'est leur pub, doper votre journée ou doper votre... On est dans le culte de la performance, même pour les jeunes. Donc on va leur donner des vitamines. Est-ce que prendre des médicaments tout le matin, même si c'est dans la démarche, c'est pas déjà se doper ?
Loïc Perron sous-entendait. On dit qu'on se dope. Il dit, moi, je veux bien faire un contrôle, sauf que le mec, il est avec nous et il nous fait ça dans les 40e rugissant. Pourquoi se doper ? Bah, y a un truc qui est paru cette semaine. Hein. Le sprinter jamaïcain Steve Mullings, 4e performeur mondial de la saison 2011. C'est un type qui courait, dit courait au passé, en 9 secondes et 80 centièmes. A été suspendu à vie. Alors, pourquoi on se dope ? Ouais, je vais vous le dire. Enfin, là. Donc, âgé de 28 ans, c'est toujours dans lemonde.fr. Âgé de 28 ans, Mullings, qui s'entraîne en Floride dans un groupe qui comprend aussi l'américain Tyson Gay, a couru, écoutez, 7 fois sous les 10 secondes sur 100 mètres cette saison. Alors qu'il n'y était jamais parvenu auparavant dans sa carrière. C'est le travail.
Bah oui.
C'est le travail.
Alors
voilà. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui évoquait aussi. Je me tais parce que je parle trop, tu vas me dire.
Non.
C'est au sujet toujours dans lemonde.fr. Il y a des articles sur le football américain.
Alors, parce que
le football américain est accusé de tous les maux.
Attends, je te coupe avant et tu finiras. Parce que justement, on nous parle de sport américain et d'Evreux, mais il y a quelques. Déjà dizaines d'années. Je vous lis le message en vrac qui vient d'arriver sur le chat. L'histoire du dopage passe aussi par Évreux. Quand la base 105 était encore américaine, les militaires volaient de la bonne viande. Un grossiste en viande locale échangeait de beaux morceaux contre de petites fioles made in US destinées aux cyclistes normands connus. Alors, moi je ne sais pas de qui on parle. Je vous livre,
on a un auditeur qu'on connaît pas.
Mais là, ça, ouais, ça balance sur des pratiques.
C'est une première, un auditeur qu'on ne connaît pas.
Bah, peut-être qu'on le connaît, mais il n'a pas signé. non, mais on le remercie de l'info. Et ouais, bah, après, voilà. Mais on en parlait, hein, les réseaux secondaires pour se procurer les produits, c'est les plus dangereux et on ne sait pas forcément ce qu'on achète. Vas-y, continue. Donc, fini sur le FootUS.
FootUS, il y a une interview toujours sur lemonde.fr de Philippe Gardan. Qui n'est pas le joueur de hand, mais un joueur français qui a joué en NFL, donc la ligue
majeure,
du football américain et même la ligue mondiale majeure. Lui, il récuse un peu l'idée du dopage généralisé, mais enfin, il récuse, ça c'est au début, parce qu'après, il dit « Eh bien alors, le dopage existe, c'est un secret de polichinelle, mais n'est pas influent comme dans les autres sports. » Voilà, c'est-à-dire que nous, il dit « Tout le monde se dope, mais il va plus loin. » Mais là, il a raison. Quand le poids de toute une famille d'un milieu social en difficulté pèse sur la réussite d'un joueur au port de la NFL, quand le destin d'un gamin est d'être joueur pro ou à la rue, le dopage devient un cas de conscience. L'importance qu'a pris le sport dans la société met malheureusement la question du dopage en avant, quand bien même il a toujours existé.
On revient au réseau court, à la société de consommation et tout ce qui se...
Bah, et on
revient
aussi de familles qui sont dans des ghettos, dans des situations très compliquées, et on offre un pont d'or. Et ce pont d'or, pour l'avoir, il faut être un tout petit peu meilleur, un tout petit peu ci, un tout petit peu ça. On conseille d'ailleurs de regarder le film d'Oliver Stone, même si c'est pas un grand chef-d'œuvre. Sur le football américain, qui s'appelait quoi lundi, enfin en anglais c'est lundi, dimanche soir, le rendez-vous du dimanche soir, un truc comme ça en américain.
Alors moi je veux juste rajouter 2-3 petites choses quand même pour les plus novices sur le dopage, pour dire sur quoi on peut influencer le rendement d'un sportif. Il y a des choses classiques et connues. On peut modifier la morphologie, ça c'est classique, pour augmenter la force et la puissance musculaire. Ça, c'est, on va dire, les effets des stéroïdes anabolisants, par exemple. Avant, c'était les hormones de croissance. Pour améliorer l'oxygénation, on fera référence notamment...
Hormones de croissance, je te coupe juste un instant.
Vas-y.
Tu vas ensuite. C'est tout chaud, hein. C'est 2011. Le syndicat des joueurs de NFL a refusé de subir des tests sur les hormones de croissance. Ils ne sont pas dopés, mais ils ne veulent pas qu'on contrôle. On rappelle qu'en basket... le contrôle est annuel et la date annoncée quasiment 6 mois à l'avance. Donc il y a que le con.
Il y a que le con qui fait une soirée la veille à Las Vegas,
ou à Miami et qui embrasse une prostituée.
Voilà. Toute ressemblance avec un personnage et la réalité.
Voilà, fais gaffe, on va avoir procès.
Donc, ouais, améliorer l'oxygénation, c'est le cas du salbutanol qui était qui est un truc qu'on donne aux asthmatiques et aux JO. De Lillehammer en 94 et à ceux d'Atlanta en 96, il y avait 90% des athlètes qui prenaient ce produit, des sprinteurs. Seul problème, c'est qu'il n'y en a que 2,3% qui étaient asthmatiques.
Bah oui, c'est normal.
Non, il n'y a que 3% de la population globale qui est asthmatique. Donc ça veut dire que dans les ils font tous de l'athlète. Après, il y a pour accroître la concentration. Alors voilà, oui, on peut se doper en tir à l'arc. Parce qu'il faut...
Des bêta-bloquants ?
Ouais, voilà, tout à fait, les bêta-bloquants qui permettent de gérer un peu le système de tremblote. Tout ce qui est lié au dépassement de soi, avec les narcotiques notamment. Alors là, on est plus proche
Mais on va revenir sur les narcotiques. Bon, on a tous fait du sport, alors nous, modestement. Hein, mais quand on faisait une fête... Allez... c'est quoi, c'est à la binouze, au vin, les jours de grandes victoires, on taquinait autre chose, on passait aux alcools un peu plus forts, enfin bon, en restant raisonnable. Mais quand on a dans son sport une pratique festive à base de cocaïne, d'héroïne, de ce qu'on appelait le fameux pot belge, c'est-à-dire qu'on est, enfin, déjà dans ses pratiques quotidiennes, on s'est déjà musclé, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ah bah, c'est évident que ou quand tu bois ou quand tu as accès à des produits bas régulièrement, si tu bois de la bière, t'es content de boire du champagne ou du whisky. Si tu bois du whisky, qu'est-ce que t'as envie de boire après? L'escalade, elle est plus difficile et plus compliquée.
Enfin, juste deux réflexions. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité physique à encaisser ce genre de substance.
Un Jeffrey.
Ah, voilà. C'est impressionnant, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on est quasiment proche...
Touche le mur.
On est quasiment proche de tous les stéréotypes qu'on peut entendre sur le showbiz, c'est-à-dire un certain nombre de parasites prêts à vendre n'importe quelle substance à des gens qui montent, qui ont envie de s'éclater, etc. Quoi.
Alors après, il y a aussi une autre chose dans d'autres sports, et tu parlais de Loïc Perron, on parle des amphétamines pour maîtriser le rythme
du... on dit Loïc Perron, parce qu'on parlait de...
Non, mais on parlait de lui, donc ça fait un lien avec les...
Et il avait un petit peu raison quand même, quand le mec il dit, ouais, si on est dopé, le mec il a qu'à venir avec nous.
Mais voilà, alors donc...
Faut y aller avec eux.
On peut prendre...
Faut déjà pouvoir pisser dans le bocal dans les...
On prend... Évidemment, on peut prendre certains produits pour dormir moins ou pour gérer le rythme du soleil.
Non, mais ils s'entraînent à dormir un quart d'heure par jour. Ils s'entraînent.
Et puis après, y a tous les diurétiques aussi pour perdre du poids. Alors là, c'est la boxe, l'aviron, tous les sports où le corps est... L'équitation, on peut... Et ouais, il n'y a pas que les chevaux qui se chargent. Il y a aussi les cavaliers.
On a beaucoup cerné, lors de ces quelques minutes... le cyclisme et l'athlétisme, ce qui est assez facile, ou les haltéros, des choses comme ça, c'est assez facile. Et je crois que les pouvoirs publics, c'est comme un peu actuellement politique, là on nous parle du nucléaire ou du vote des étrangers, sans vouloir vraiment nous parler de la crise actuelle. Et on nous parle pas beaucoup du football.
Bah,
et en football, si c'est le sport majeur, je vois pas pourquoi
il passerait au travers.
Voilà.
On est d'accord.
Mais comment on fait pour enchaîner des matchs de Champions League, d'Euroleague, pardon. Non, de Champions League, pardon. Le mardi, le mercredi, enchaîner sur un match le samedi ou le dimanche et recommencer ça, et recommencer ça, et recommencer ça, et galoper comme un lapin avec une trêve internationale au milieu où les meilleurs vont jouer au Kazakhstan, ils reviennent, ils vont jouer à Malte et ils finissent à Andorre. Je vois pas pourquoi eux passeraient à travers. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ton sport à toi.
Ah bah, on n'est pas mieux, hein. On n'est pas mieux loti en termes de...
La créatine, on y a toujours le droit, on n'a plus le droit, parce qu'avant, on avait le droit.
Nous, en France, on n'y a jamais eu le droit, donc officiellement, mais je pense que...
Parce que les nations du Sud avaient le droit, les
eux,
trois.
Voilà, eux, ils avaient le droit, les Anglais avaient le droit. On était les seuls parce que le... Mais c'est aussi parce que la réglementation en France est plus dure, la réglementation interne est plus dure que la réglementation internationale. Les autres, ils disent la réglementation internationale, elles ne l'interdisent pas, on le fait. Juste pour clore sur ce sujet... Et complété pour ton petit manque de culture générale qui n'était pas complet, on nous a aidé. L'enfer du dimanche et Any Given Sunday, pour être précis en anglais. Et je pense que.
D'ailleurs, on est suivi par des auditeurs.
Qui ont un peu de culture, hein, ça
c'est
fait plaisir.
Très agréable.
Et puis, je pense que. Ou moi, je vais l'avouer, je me suis dopé, j'ai pris quelques gurosans avant les matchs. Parce qu'on nous pose la question, aucun de vous n'a jamais pris de gurosans. Bah, si moi j'en. Je devais en mettre 2-3 dans une.
J'ai un souvenir, mais c'était pas tellement lié à une pratique sportive.
Est-ce que c'est du dopage? La vraie question. Eh ben allez, on clôt cette page dopage. C'est la pause musicale, vu qu'on vient de parler assez longuement. Donc on va vous laisser musique.
Ouais, on a évoqué à travers le football américain. Mais ça peut. Je pense que ça peut marcher pour beaucoup de sports, sans doute pas pour l'équitation ou le polo. Sortir de la rue, c'est un titre qui s'appelle The Ghetto de Donny Hathaway.
Ah, avant de mettre le morceau, allez, on se boit. Ouais, non, allez, mets le morceau de suite, ça sera plus simple.
Oh,
Ouais, c'était quoi?
Je le répète, Donny Hathaway, The Ghetto, un morceau offert par Garmurche.
Bah tiens, en parlant de morceaux offerts, moi je vous en offre un aussi.
Il manque un peu de moelleux, ça doit être un coupage. Mais il est tonique, hein, on le sent descendre.
Ah bah s'il est tonique, ça me va bien, moi en tout cas.
Si je me souviens bien, c'était du vin mélangé avec de l'essence.
Tout à fait, ça doit être un truc dans le genre. Et bah je crois qu'on va entamer, c'est dommage, il n'est pas arrivé, mais il va peut-être le faire d'ici quelques instants d'un pas sûr et décidé. On va parler des espoirs et des désespoirs, peut-être parfois. J'avais remployé cette formule mardi pour vous présenter. Espoir ou désespoir, j'avais bien aimé mon entraîneur de basket à l'époque qui nous avait dit ça. C'était Nenad Kovacevic qui évoluait à l'époque... dans le rang de l'équipe Espoir à l'ALM Évreux, à la grande époque du grand centre de formation qui a sorti quelques joueurs.
Je l'ai, j'ai quelques noms.
Alors, avant de faire ça, il y a une revanche à faire en 3 points, en 3-7 gagnants. C'est la période des 3-7 gagnants avec le Masters, avec la belle épopée de...
Si t'as 3 questions, c'est en 2-7 gagnants.
Ouais, en 2-7 gagnants avec Tsonga. Notamment en ce moment, qui va bien au tennis, on va dire.
Donc, rectifier le commentateur, ça compte pas. Hein. C'est pas un point. Hein.
Non, c'est moi qui arbitre. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir.
Hey
ah, bon, on va recommencer le jeu.
C'était pas Radio Nova, c'était Principe Actif.
On attend qu'il arrive, on prend le temps.
Oui, Bali, il est dopé.
Lui aussi. Oh là là,
il est dopé au gras.
Voilà, et heureusement que vous n'avez pas la webcam. Hein.
Le Raoul.
Ah. Bonjour Raoul.
Bonjour messieurs, enchanté.
Alors, nous, pour refaire un peu le coup, on a parlé de dopage évidemment. Et puis bah là on va parler des espoirs et des désespoirs et on a entamé une nouvelle chose. Ça commence par un petit quiz avec des questions pour illustrer ça. La première question, il faut retrouver l'auteur de cette question. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir.
Churchill?
Non.
C'est un sportif?
Non.
Est-ce que c'est une candidate aux élections?
Non, toujours pas.
C'est Arlette. C'est Arlette qui a dit ça.
Toujours pas. Non, c'est une école d'Évreux. C'est le nom d'une école d'Évreux.
Ah bah c'est Jaurès alors.
Non, d'une école.
Une école.
Pour toi, le syndicaliste là.
Henri Dunant, non?
Non, Romain Rolland. Chose suivante, on va rejoindre, on va y arriver.
Il nous fait à la culture là.
Globaliser les luttes.
Café des sports.
Globaliser les luttes pour globaliser l'espoir.
Jaurès?
Henri Dunant.
C'est vrai que ça fait grosse tête. Hein.
Allez, c'est José Bové.
Alors, question de.
Ouf, j'ai cru que c'était José Lay.
De Madame Loche. À grosse. Non, vas-y. Viens.
Et la dernière, je vous la fais ou pas?
Non.
Allez, on enchaîne. On a plus. Et
vas-y, bon.
Ça tombe bien, j'arrive plus à me relire.
Allez, le thème de mardi, c'était je disais, mais finalement, les Français ont été champions du monde de moins de 21, mais il y en a combien qui jouent?
Tu parles de rugby là.
Rugby.
On parle de rugby, alors donc on va refaire l'historique. Ils ont été champions du monde en 2006. Ils avaient moins de 21 ans, donc c'est les joueurs nés en 95 de mémoire.
Pas 95.
5 et 6. Donc on va refaire le point. Je vais vous.
Le dopage, c'est très bien.
Je vais vous reciter.
Il a 14 ans, il pèse 110 kilos. Ouais. Et il court les 100 mètres en 9 secondes.
Je vais vous reciter tous les joueurs et les clubs dans lesquels ils évoluent aujourd'hui. Et leur
il sera
niveau,
à 20h, on vous dira au revoir.
Et leur niveau. En première,
je savais bien que j'avais pas besoin de faire la sieste cet après-midi.
En première ligne, Cabari Laurent au SU Agen, Casalo au FC Lourdes. Donc,
c'est un miracle qu'il soit arrivé au niveau celui-là.
Domingo à Clermont, Guirado à l'USAP, Egui au Biarritz Olympique.
Il joue pas.
Si, il est sur le terrain.
Montes au Stade Français, au Stade Toulousain, Sampere au Stade Français, Weber qui était un des grands espoirs du poste de première ligne.
C'est rigolo parce que là c'est les premières lignes.
Ouais.
Poste à maturation tardive, on dit, et c'est eux qui jouent le plus finalement dans cette liste-là.
Ouais, où ils commencent. Weber donc à Colomiers. Après, il n'y avait que deux deuxièmes lignes. Il y a beaucoup de premières lignes, vu qu'il y a eu des blessés. Ils ont rappelé des joueurs, notamment Casalo et Weber, qui sont blessés en cours. En deuxième ligne, donc, il y avait Drodz, qui a fait une belle carrière à Brive, mais qui a dû arrêter suite à un problème.
C'était fugace.
Non, mais il a arrêté de jouer il y a déjà 2 ou 3 ans pour un problème médical. Donc, il a fait le droit de jouer.
Il était sud-africain.
Épilepsie, pour être précis. Jacquet à l'AS Montferrand qui joue un peu moins. Le DVDEC qui joue au CA Brive. Après, les troisièmes lignes, Alexandre à Grenoble en Pro D2. Beko à Colomiers. Bontic qui avait fait qu'un match au Loup. Tchouli à l'USAP. Malonga au Castres Olympique qui rejoue après une grosse blessure. Wodreago à Montpellier. Après les 9, Cibré au RC Toulon et Thiousbord au RC Toulon. Les deux, ils sont dans ces clubs-là. Après, il y a Thomas à Montpellier qui joue aussi. Clarac, que je connaissais absolument pas, lui joue à Auch. Il y avait un seul ouvreur en la personne de Maxime Boxis. Au centre, il y avait Thierry Brana qui a été rappelé juste pour une blessure, il n'a pas joué. Lui, il est au RCT. Après, il y a Thibaut Lacroix à l'Aviron Bayonnais qui joue. Il y a Maxime Merzoni.
Fin du temps imparti.
Il y a Maxime Mermoz à l'USAP qui joue.
Les remplaçants.
Il y a Mignardi à Brive qui joue. Il y a Puyot en Pro D2.
Ça joue à 30 contre 30, c'est ça le
basket, c'est plus simple.
Avec 20 remplaçants.
Il y a Puyot à Bourgoin qui joue.
Laissez-le finir.
Mais vous me demandez, je vous donne toute la...
J'aurais su, j'aurais pas venu.
Après, il y a Mathieu Bourré qui joue à Dax, qui était parti jouer en Angleterre. Il y a Bouzuge au CA Brive Corrèze. Denos qui est titulaire toutes les semaines au Castres Olympique. Fior au CA Brive Corrèze. Et le dernier, il était tout seul sur ce poste-là. Maxime Médard au Stade Toulousain.
Tu l'as dit deux fois.
Il a dit Mermoz.
Pardon.
Et Maxime Médard au Stade Toulousain qui joue tous les...
Non, il a dit Maxime Boxis, je crois.
Oui, Maxime Boxis.
D'accord. C'est ça.
Lionel.
Oui, mais t'as dit Maxime.
Maxime.
C'est bien beau de prendre des notes.
Mais... Bon, j'ai pas pris de notes pour Maxime.
Donc, on voit que finalement, sur cette génération qui était une génération exceptionnelle.
Résumons.
Beaucoup jouent.
Bah, ils jouent tous. À part, il y en a 3 en Fédéral 8. Sinon...
Ils jouent tous, ils jouent tous. Ils ont pas arrêté le rugby, mais bon, quand tu joues à Auch ou à Colomiers ou machin,
alors,
ou à
Lourdes,
quand t'es champion du monde.
Il y en a 5 qui jouent en top en Pro D2. Non, il y en a 4 en Pro D2, 2 en Fédéral 1, et tout le reste est en top 14.
De l'intérêt d'avoir un centre de formation à Évreux, alors c'est quoi? Parce qu'on va recentrer sur Évreux. Moi j'avais une petite liste, mais je vais faire beaucoup moins long que toi. En allant très très vite sur les grandes années de l'ALM Basket, lorsqu'ils avaient un centre de formation. Donc il y a eu Tariq, l'étoile du matin, Joseph Gomis, Frigou, Mézeroy, Toffin, Dahak,
Lesmond
Crédit, Blo, Mendy, Gradit, Constantin, Braun, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Mais on voit quand même que sur ils ont produit quoi? Ça a produit pendant 8 à 10 ans. Là, il y a quand même
15 noms.
Une quinzaine de noms.
Tu sors deux mecs
en Pro A, Pro B. Hein, c'est...
Bah, alors, il faut bien voir que dans ta liste, tu as deux types de gars. Tu as ceux qui sont sortis tout de suite vers le haut niveau. Et tu as ceux qui reviennent au haut niveau maintenant, après pénitence N2, N1, Pro B maintenant, et qui bénéficient des nouvelles règles sur les joueurs locaux. Braun, Constantin, etc. C'est quand même des mecs qui sont revenus par le bas, avec Poitiers, par exemple, pour l'un d'eux.
Orléans pour Blo.
Orléans. Je pense que s'ils avaient
Gradit,
pas eu...
c'est la plus grosse surprise, ouais. Par contre.
Je pense que s'ils n'avaient pas eu l'avantage d'évoluer au moment de la création de la règle des JFL, là où, je ne sais plus comment ils appellent ça, on ne les aurait pas retrouvés en pro derrière.
Et tu comprends la démarche de relancer un centre de formation basket à Évreux?
Ça dépend par quel bout de la lorgnette tu regardes les choses.
Bah, fournir des joueurs.
Ah, je croyais que c'était une obligation pour ne pas perdre la subvention de la région.
Ah, moi, en tout cas, il n'y a pas d'obligation par rapport à la LNB.
100 000.
D'accord. Mais il n'y a pas trop. Par rapport à la LNB.
Non, non.
D'accord.
Non, non. C'est pas la LNB qui fait vivre la LM.
D'accord. Et quel est l'intérêt d'avoir un centre de formation de volley à Évreux?
80.
D'accord.
Faut être pragmatique. Non, 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 mais ça c'était pour le côté gros con qui râle tout le temps.
Ah,
mais...
tu le fais bien.
Bah, surtout quand tu on m'a saoulé pendant un quart d'heure à me parler d'illustres inconnus qui ont été soi-disant champions du monde.
Ah, mais ils ont pas été soi-disant, ils y ont été.
Ah, je sais pas.
Alors, c'est quand la dernière fois qu'une équipe de volley
soit moins con et
du monde
développe.
Alors justement, vu que Claude Gros-Naz, là, il a un titre pour toute la panoplie des rugbyman depuis 30 ans, ouais, mais c'est à peu près ça. En volley, je crois qu'il y a 7 médailles continentales d'abord, parce que bon, c'est un peu là que ça se passe quand même, sur les catégories de jeunes, en garçons, cadets, juniors. Il y a des titres européens, il y a des médailles mondiales.
Et pourquoi ça n'arrive pas alors plus haut ?
Ça arrive. Ils y sont.
Ça va venir tranquillement.
Ils y sont. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un sélectionneur en A. Il prend les jeunes. Quand ils sont très jeunes, il les met en A. Il les cartonne. Dès qu'ils perdent, il les éjecte et il veut plus les voir. Voilà. Mais ils jouent tous en Liga. Certains jouent à l'étranger dans des gros clubs européens. Il n'y a pas de problème. Ça met un peu de temps à performer. On dit qu'un volleyeur, en général, c'est 26, 27, 28 pour être bien. Donc, sur les garçons, voilà. Maintenant, je trouve que c'est de la poudre aux yeux, les résultats en équipe de jeunes, puisque la France était novatrice sur une chose, c'est de regrouper ces jeunes talents dans des centres fermés, là, Marc Atraz, le Krebs de Montpellier pour le Centre National de Volleyball, Clairefontaine pour le foot. Et donc, ce sont des vraies équipes qui s'entraînent toute l'année, qui jouent contre des sélections qui n'ont pas de vécu commun. Donc, ça fausse la donne quant à ces résultats. Moi, je pense que c'est plus intéressant de regarder ce que donnent réellement ces gars-là, 4 ans, 5 ans après. Est-ce qu'ils se sont imposés, eux ? Mais je dirais même pas en A, parce que les DTN tiennent tellement les filières d'entrée dans les équipes nationales qu'il faut plutôt regarder leur carrière en club. Est-ce qu'ils ont éclaté en club ? Est-ce qu'ils sont devenus des joueurs majeurs à l'image du titre mondial qu'ils ont eu ? Ou européen pour les volleyeurs. Donc, bon, voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. Moi, je vois ça comme ça pour que ce soit l'ALM ou le VB en volley. C'est arriver à sortir tous les 2 ans, 3 ans, un joueur, 2 joueurs susceptibles de tenir leur place au niveau professionnel auquel évoluera l'équipe. Voilà, je vois ça comme
La tenue de place, c'est quoi
tenir ?
C'est le bout de banc ?
Tenir une place, avoir un rôle.
Donc tous les ans, sortir une joueuse capable d'être une
utopique.
Bout de banc ? Non, un bout de banc.
Tous les ans, c'est utopique. De toute façon, un joueur, ça ne se forme pas en un an. Tu rentres dans un centre de formation, tu vas faire 2 à 3 ans.
Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que, voilà, se dire on
forme. Non, mais mettre de la chair à canon. Chair à canon au bout du banc, je veux dire, voilà. Karim Dak, le pauvre, il a combien de minutes de jeu cette année ? C'est même plus un espoir, je veux dire, mais.
Ça s'étiole, le pauvre.
Il a plus, pas de temps de jeu. L'autre gars qui est en bout de banc, là, qui joue très peu.
Bah, y a, c'est
le pigiste.
C'est Kaba ?
C'est Kaba ?
Oh oui.
Voilà, bon, ces gars-là, quelle incidence ils ont sur le résultat d'une équipe ? Voilà, ils peuvent apporter à l'entraînement au quotidien.
Konaté a une incidence.
Konaté, c'est un bel espoir. On est d'accord. Mais voilà, à l'EVB, il y a un effectif de 11.
Tu trouves ça intéressant de le faire travailler pro le vendredi, N3 le samedi ?
Ah, moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour le péter. Le mec, il revient, je veux dire au hasard, il revient d'Antibes. Dans la nuit, en bus, et le lendemain, il va jouer ne serait-ce qu'à Paris. C'est irrespectueux pour la santé du joueur, c'est mon avis. Les doublons, c'est bien pour donner du temps de jeu, mais il faut quand même les aménager. Il ne faut pas que ce soit systématique tous les week-ends. Et je pense que c'est très risqué pour la santé des joueurs. Vous avez parlé de dopage avant. Bah, allons-y, ouvrons la porte. Hein.
On l'avait dit qu'il y aurait du corset.
On avait annoncé que la deuxième partie serait toujours bien plus alerte.
On coupe 2 minutes ou...
Ouais, on coupe en musique et puis on se retrouve après pour un large tour de table et une revue d'effectifs, on va dire. Allez, let's go. Musique, qu'est-ce que tu nous mets ?
Un morceau du Couvésien.
Allez. Yeah.
The Rising, un groupe de Los Angeles qui sonnait un petit peu comme les Who.
Exactement, et non pas comme les Beach Boys.
Vous avez la même coiffure?
Non, même pas.
Sauvé.
Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
D'accord.
Oh, d'accord, patron.
Ok,
d'accord,
on est d'accord.
D'accord, c'est bon, t'as voilà, raison. T'as
ça
raison.
C'est...
Ils sont cons.
Jérôme, le Couvésien avait une question pendant. Le Couvésien, j'ai rien dit.
Qu'est-ce que j'ai posé comme question?
Non, savoir quel était le problème.
Ouais, ouais, tu nous as cité un. Enfin, t'as parlé de plusieurs joueurs. Bon, combien il y en avait?
38.
45.
C'est 62.
Mais c'est quoi le problème, moi?
Mais non, mais.
Il n'y a aucun problème.
Le truc, c'est qu'on n'est pas d'accord. Lui, il a cité la totalité des joueurs.
Champion du monde.
Champion du monde, etc. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était les joueurs à impact, effectivement, actuellement en top 14. Et on se rend compte que sur les 40 noms qu'il a cités.
31.
Vous avez... Sur les 31.
Parce que
il y en a une petite douzaine. C'est bien, un tiers qui a un impact. Ce qui n'a pas lieu, par exemple, en basket, qui a collectionné les trophées ces dernières années, où il y a quoi? Il y a trois joueurs par sélection, enfin, par génération. Qui se retrouve avec un rôle majeur ensuite.
Donc là, c'était positif, c'est ça?
Bah moi, je trouve que c'est
la génération Parker, okay. Elle est championne d'Europe en quelle année?
Oh la vache, ça commence à remonter parce qu'il a 29 ans, donc c'est il y a 10 ans.
D'accord.
10-12 ans.
12, ouais.
12 ans, ouais. Okay. Entre-temps, il y a eu la génération Batini.
Mais ils ont squatté l'équipe de France depuis 4-5 ans, ces gars-là.
Bah Parker, lui, il a rien fait. Hein.
Ouais, mais vraiment, prendre les rênes de l'équipe de France, ça s'est fait...
Au départ de Rigaudeau.
Donc
2004. Puisqu'ils font médaille.
Ah, ils font rêver plus jeune.
Ils font la médaille de bronze ensemble en 2004 en Serbie. Je crois.
En Serbie. Ouais.
Okay. Mais. Non, voilà, c'était la question sur le. Moi c'est comme ça que j'entendais la question.
Moi, je trouve que c'est plutôt. Ou sur cette génération, plutôt.
Quand t'es champion du monde, voilà, ton destin, c'est. C'est d'avoir un impact sur un terrain.
Alors, un impact.
Il y en a 5 ou 6.
Tu veux parler de.
Tu vas le chercher où? Tu vas le chercher où cet impact? Sur équipe nationale, sur club, sur carrière club à l'étranger, parce que ça se mesure aussi là-dessus.
Bah surtout dans d'autres sports où on va dire la France n'est pas l'état majeur. Je vais prendre le volley, je vais prendre le foot.
Non, vas-y.
Pour réussir une carrière, c'est pas en France qu'il faut être en termes de club.
D'accord. Mais donc c'est club déjà. Ta carrière de joueur professionnel donc en club.
On va parler d'un joueur qui a jamais joué en équipe de France, Jean Bouillou. Bon joueur ou pas bon joueur?
Oui, excellent joueur.
Eh ben ouais, mais jamais en équipe de France. Ouais. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est un joueur qui restera dans l'image de son club.
Très honnêtement, je vais baisser le tapis. Je pense que très honnêtement, lors des tournées d'été, lui il a dit non. Il a dit parce qu'il est ingénieur plus 5, hein, enfin un bac plus 5. Et lui il a dit moi je vais pas faire un mois et demi en juin-juillet aux antipodes. J'ai mes études à privilégier.
Mais. Non mais voilà,
je pense que c'est pour ça.
Il y a des joueurs de club qui ne seront jamais des grands joueurs de club. Hein.
Je posais la question pour souligner ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut pas vraiment mesurer la réalisation d'un joueur à l'aune de sa carrière en équipe nationale, parce que malheureusement le sport français est fait d'une certaine façon. Il y a des filières, des routes qui sont toutes tracées. Tu dépends d'une DTN. Quand tu rentres dans une structure, tu vas avoir l'accès au niveau. Tu auras ta chance, quoi qu'il arrive. Donc là, on parle pas de centre de formation, de club. On parle de centres fédéraux, de pôle espoir, de pôle France. Là, tu sais que tu auras ta chance, à un moment donné.
si on regarde juste ça à travers le prisme équipe nationale. C'est pour ça que pour moi, il faut combiner avec, avec le comment,
avec
la carrière club.
Ah bah oui, je pense.
Alors après, carrière club, la largeur des effectifs, la profondeur des effectifs en rugby est telle que pour pas sortir en top 14, sur un joueur issu de la filière fédérale, il faudrait quand même que le mec il passe son temps à trébucher sur le tapis à l'entrée du bureau, quoi.
Ah ouais, mais il y en a.
Ouais, bah, ça veut dire que ils sont pas très convaincants, ces garçons.
Tu te souviens du nom du mentor de Obradovic et Mashkovic? Je sais plus, ils avaient un mentor qui était de
l'entraîneur de Split.
Ouais, qui disait si t'es pas international à 19 ans, tu ne feras pas une grande carrière.
Dans le basket.
En basket.
Ouais.
Mais il parlait, je pense, d'étoiles.
Ouais, ouais, des grands, grands joueurs, ceux qui marquent leur temps.
Ouais.
Des Bodyrogast, toute la clique yougoslave. Si j'avais un garçon, je le rappelais déjà.
Mais voilà, moi, hors micro tout à l'heure, on parlait d'un cas pour illustrer ces joueurs qui ont eu des titres en jeunes, qui ont été dans les sélections jeunes, qui finalement n'ont jamais percé derrière. On peut parler de. Gaëtan Muller. Voilà. Qui a même, on peut même pas dire qu'il a une carrière en pro à ce gars.
Après, je pense qu'il y a des. Mais c'est propre au système français et à ce que tu as relevé tout à l'heure. C'est qu'on a des joueurs qui vont pas être des joueurs à gros potentiel pour l'avenir, mais qui vont être des joueurs très forts.
Vas-y.
Je parle pas de Gaëtan Muller, je le connais pas.
Non, vas-y.
Mais des joueurs qui sont pas des joueurs à gros potentiel pour l'avenir, mais qui sont des joueurs à maturité. Pour le moment présent, pour la sélection à un moment donné.
Et oui, des role-players.
Voilà, qui seront très bien parce qu'ils jouent depuis 10 ans.
Bons joueurs de complément.
Voilà,
pour solidifier une équipe de jeunes.
Voilà, on va mettre un meneur qui est hyper expérimenté parce qu'il a 10 ans de basket en cadet.
Il nous reste 7 minutes après, c'est jazz à part.
Oui, non, mais, Manu, pas de soucis. Or, non,
qu'il n'a pas. Nous foutre dehors, toi.
Or, qu'il n'y a. Or que le joueur. Il n'a pas les qualités pour aller en pro A en termes de détente, en termes
sans
de
que
vitesse.
Ce soit péjoratif, ça a été l'apport d'un Cyril Julien dans certaines catégories jeunes qui n'était pas un produit de la structure fédérale, qui avait déjà.
On est dans
déjà,
un bar, il y a un comptoir, hein, tu peux faire ça comme bruit. Hein.
Qui jouait déjà en National 2 ou National 1 à l'âge de 15 ans avec des seniors à Castres, par exemple. Et qui était forcément beaucoup plus dur que les joueurs de son âge. Mais moi, par contre, je ne te rejoins pas. Justement, ce qui a posé problème à un moment donné, c'est qu'on a rentré que des potentiels dans les sélections de jeunes, dans les centres fédéraux.
Et parfois même à l'ALM.
Parfois même à l'ALM, des athlètes. On a oublié que le basket était un sport d'adresse, un sport technique. Au volley, on a fait la même connerie. Il y a toute une génération dont certaines filles sont passées par Évreux. Je pense à Audeba, je pense à Tracy Valérin qui est là actuellement. C'était des filles qui étaient des athlètes, qui n'étaient absolument pas des volleyeuses. Certaines ne le sont jamais devenues d'ailleurs.
Je pensais par exemple à un Stéphane Brun qui avait été refusé à Évreux. C'est-à-dire que Stéphane Brun, son père,
un vrai joueur de pro qui a une vraie
carrière. Père était professeur au lycée Paul Bert, entraîneur au camp BC à l'époque, et il s'était présenté à Évreux pour être espoir. On lui a dit non, tu ne feras pas un grand parcours en pro puisque tu n'as pas un potentiel physique à monter au plafond. Sauf que le monsieur a été international. Il joue toujours.
International, hein. Stéphane Brun.
Oui, oui, il a joué. Il joue en équipe de France.
Ouais, il a essuyé les parquets l'été quand personne ne venait.
Il en faut aussi.
Mais par contre, non, mais
vrai joueur de pro. Vrai joueur de pro.
Tu peux pas dire que c'est un international.
Non, mais vrai joueur de pro.
Il a des caps.
Je me souviens d'autres joueurs, Reginald George, etc., qui a des gens, j'ai rien contre ce monsieur, hein, bien au contraire, des types qui prenaient, qui ont été choisis à sa place. Mais là, après, on est plus dans la pièce jetée en l'air. Hein.
Allez, on close ce débat. Non, on n'aura pas le temps, monsieur Gonzalo, de remettre un morceau. On enchaîne sur le tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule.
Même pas un petit générique pour couper, clac, clac.
On va le faire, mais on va lancer l'avant avant ça.
D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde?
Excusez-moi, c'est pas le bon, c'est celui-ci.
Bon, alors, la tactique, elle est simple. Hein.
Allez, Polak.
Bon alors, la tactique elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh Spivak, c'est ce qu'il a dit numéro 10. Les Polacs qui leur chiaient sur la gueule.
Bon alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ces types vous méprisent. Alors vous avez 45 minutes.
pour régler vos comptes.
Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec ça.
Il y a des entraîneurs qui ont des Polonais ou des Polonaises comme joueurs ou joueuses fétiches.
Allez, un coup de cœur ou un coup de gueule, on commence par Gonzalo.
Oh la vache.
Ah, fais-moi le mal.
Allez.
Ouais, je vais t'aider. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bavé sur le foot.
Vas-y.
D'accord. Bah, ils ont tellement rien à nous montrer en termes de qualité de jeu, enfin d'intérêt pour le spectacle, qu'ils ont trouvé le moyen de nous intéresser à nouveau avec leur petit Paris match classique, quoi. Alors, Comboiré, Anigo et puis Deschamps, et maintenant Deschamps et... Comment ils appellent le gitan, là ?
Pierre-André.
Gignac. Ils nous fatiguent, ces mecs-là, hein, franchement. Passons à autre chose.
Couvésien. Un coup de cœur, un coup de gueule sur l'actualité locale, internationale, régionale.
Un coup d'espoir.
Allez.
Une première victoire de l'EVB à domicile, ça serait beau.
Ouais, ça sera pas ce week-end.
Ça y est, j'ai mon coup de cœur.
Allez, vas-y.
Bon, il est facile, hein. C'était dimanche matin.
Il l'a oublié mardi.
Oh là 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 là.
Allez, vas-y.
Eh ben quoi, deux podiums de l'EVB en catégorie poussine.
Et ça va changer la face du monde, ça.
Exactement. Moi, j'ai mon équipe, c'est pas des cracottes.
Nous sommes une radio locale.
27-25 au
tie-break. Plaisir à tout le monde.
27-25. On n'est pas des cracottes.
Et ben, moi, j'ai juste un coup de cœur. C'est par
Vous étiez contentes, les gamines, et le reste, on vous embête.
Moi, c'était juste un coup de cœur par rapport au tennis et par rapport à la belle performance de son gars. Je suis pas plus que ça le tennis, mais je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'il y a un Français.
La troisième.
Qui font aussi bien dans un Masters. C'est à un moment donné, c'est une belle performance juste.
Attends,
sur un moment donné.
Tu supportes la Kind Arena, toi.
Ouais, vachement, ouais. Ils me l'ont bien mis.
Ils sont pas. Il est pas rancunier.
Vu comment ils me l'ont mis.
T'es pas invité à Rouen ce soir? Pour le maillot, 5 maillots pour je sais pas quoi là?
Ah non.
Pour l'espoir?
Non, et puis je suis
Il
pas.
Il reste moins d'une minute.
Et ouais, mais si vous arrêtiez
si
de
vous
me couper
un
avec des, vos conneries. Dernière chose.
Il y a du Wii Sports Weekend.
Dernière chose. Demain soir, il y a deux rencontres officielles de match avec l'EVB qui reçoit à 18h30 au gymnase du Canada Mulhouse. Et sinon, il y aura aussi, ça doit être à 20h au gymnase Jean Fourré, à la salle Jean Fourré, Jean Moulin.
Centre Omnisport, on dit tout ça, salle Omnisport. Voilà. C'est ALM Ouistreham.
Ouistreham en N3, donc ça c'est pour le centre de formation. Et puis il y a toujours du football.
Dimanche, il y a du basket encore, les filles de Netreville.
On est samedi pour l'instant.
Ah, pardon.
Et samedi soir, il y a aussi du foot US pour ceux qui veulent à Pablo Neruda. Et dimanche, il y a l'Evreux Volleyball. L'Evreux Basket.
C'est fini.
Allez, on vous dit au revoir tout de suite.
Ciao.
Au revoir Gonzalo, au revoir.
Chauffe ce monde, misère et mérite. Chauffe ce monde, la vie n'a pas de prix. Chauffe ce monde, misère et mérite.